おかしい、おかしい。ちょっと待って。
Bonsoir, suspension depuis la semaine dernière par le Premier ministre de tous les édits provinciaux imposant de nouvelles taxes aux opérateurs économiques dans les provinces. Comment analyser la décision du Premier ministre? Comment harmoniser le règlement, la réglementation des taxes en province? Trois invités participent à cette émission. Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu et porte-parole des gouverneurs élus de la RDC. Monsieur le gouverneur Paloukou, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Robert Ngambi, conseiller au cabinet du Premier ministre chargé de suivi et évaluation de la décentralisation. Monsieur Ngambi, bonsoir. Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Vos réactions, bonsoir. Nous les avons déjà. Patrick Lifénia de Bounia en province orientale. Pour harmoniser les taxes en province, il faut informatiser le système pour qu'il soit géré par un serveur national pour tous les services afin d'éviter la mauvaise gestion que l'on remarque dans certaines provinces. Sylvain Bansas-Kumbu de Mbujimayi au Kassai Oriental, pourquoi le Premier ministre veut la chose de son contraire, car son gouvernement a exigé aux régies financières le doublement des recettes, pourquoi alors surseoir les taxes qui auraient permis de renflouer les caisses de l'État? Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le Premier ministre Adolphe Mouzito a la semaine dernière suspendu l'institution des édits créant de nouveaux impôts, droits et taxes en province. Dans une correspondance adressée entre autres au gouverneur de province, il précise que la création de nouvelles taxes est conditionnée par l'adoption et la promulgation de la loi portant nomenclature de recettes provinciales et locales. Étant donné que ce projet de loi est en cours d'élaboration, le Premier ministre demande de surseoir à l'application de ces édits provinciaux. Et dans une autre correspondance dont Radio Capi a pris connaissance, Adolphe Mouzito sensibilise les gouverneurs provinciaux au respect de la législation nationale dans leurs entités respectives. Jean-Marie Boulambo, vous êtes ministre national de l'économie. Quelles précisions pouvez-vous donner quant à la position du gouvernement central dans ce dossier?
La position était connue. J'avais eu déjà à la donner et les manettes du gouvernement par ma circulaire. Ça, j'étais connu. Et je vous confirme qu'effectivement, à l'issue de la réunion que nous avons eue avec la FEC, le Premier ministre avait promis d'écrire. Et il a écrit, parce que j'ai reçu ma copie de la lettre qui a été adressée au gouverneur de province. Deux lettres d'ailleurs. La première, les rappels qui sont partie intégrante du gouvernement, ils sont, les gouverneurs des provinces, les représentants du gouvernement central au niveau des provinces, et qu'ils relèvent de la tutelle du ministère de l'Intérieur, et que le ministère de l'Intérieur a le pouvoir d'évocation sur les actes des gouverneurs des provinces, et c'était clair. Et de notre côté, il a rappelé les dispositions de la Constitution quant aux édits qui ont pullulé à travers la province pour leur dire que les édits ne pouvaient pas être émis avant que la loi portant nomenclature des taxes des provinces et du gouvernement central aient été adoptées au niveau du Parlement et confirmées par le chef de l'État. Si les édits devaient être pris, ça devait être conformément à la loi actuelle, la loi 08, et à la nomenclature telle qu'est publiée par l'autre loi, la loi 089. Je sais que le Premier ministre a rappelé aux provinces et il est allé au-delà pour leur dire que si jamais un édit était contraire aux lois, et qu'il heurtait les textes réglementaires pris par le gouvernement central et surtout abrogé. Ça a été dit, je vous le confirme, il y a deux lettres qui sont adressées aux provinces.
Les propos du ministre de l'économie nationale que vous venez de suivre ont été recueillis par Agathe Mpona. Robert Ngambi, conseiller au cabinet du Premier ministre chargé de suivi et évaluation de la décentralisation. Vous êtes en ligne, monsieur Ngambi? Robert Ngambi? Si vous avez une radio à côté, prière de la fermer, vous pouvez suivre le débat sur votre téléphone portable.
Je suis difficilement là, il y a un problème de coder.
Je disais que si vous avez une radio à côté, vous pouvez la fermer pour vous permettre de bien suivre l'émission sur votre téléphone.
pardon, là, en fait, la ligne, on dirait, n'est pas bonne. Il n'y a pas qu'on aille d'arranger.
Voilà, la réalisation va tenter d'améliorer la ligne de Robert Ngambi. Monsieur le gouverneur Julien Paluku, comment vous avez reçu cette décision du gouvernement central? Monsieur le gouverneur Paluku.
Oui. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier pour ce débat qui est très très important pour le pays. Je tiens à préciser que cela a été faussement repris dans la presse, que l'édit est un acte législatif et non pas un acte réglementaire. L'édit, ce n'est pas un acte pris par le gouverneur des provinces, c'est un acte pris par les assemblées provinciales. Et donc, en ce terme, je voudrais préciser que en matière d'édit, on peut voter trois types d'édits à la province. Soit un édit qui concerne les matières exclusives au pouvoir central, et dans ce cas-là, cet édit est susceptible d'annulation immédiatement. Soit en province, on peut voter un édit qui a trait aux matières qui relèvent de la compétence concurrente entre les provinces et l'État central, cet édit est sujet à discussion lorsqu'il est incompatible avec la loi. Mais il y a un troisième type d'édit qu'on peut voter au niveau des assemblées provinciales, c'est l'édit ayant trait aux matières qui relèvent de la compétence exclusive des provinces. Ce type d'édit n'est pas susceptible d'annulation par le pouvoir central. Parce qu'effectivement, lorsque vous lisez la Constitution, il est clairement dit à l'article 205 que l'Assemblée nationale et le Sénat ne peuvent pas légiférer sur les matières de la compétence exclusive des provinces. Sauf si, effectivement, l'Assemblée provinciale vote un édit qui autorise, qui habilite l'Assemblée nationale à le faire. Et voilà donc pourquoi j'ai dit que ce sont les deux premiers types d'édits qui sont susceptibles d'annulation par le pouvoir central, mais le troisième type d'édit qui a trait aux matières de la compétence exclusive des provinces ne peut pas l'être. J'ai tenu à le faire parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'éléments dans la presse qui ont été filtrés fortement. Parce que l'article 197 de la Constitution dit clairement que l'Assemblée provinciale légifère par voie d'édit. C'est donc une loi, mais qui est située à l'échelon provincial, qui est votée par des assemblées provinciales. Alors, apprendre aujourd'hui que des édits ont été annulés par un communiqué ou par une note circulaire, je crois que nous avons le professeur de droit constitutionnel, il devra nous apprendre nous tous si réellement, en matière d'annulation des édits, cela peut se faire par un communiqué ou par un reportage qui fait suite à une audience qui est accordée au niveau d'un lieu de la primature. Dire cela, ce n'est pas minimiser en fait la portée du pouvoir central, mais c'est vouloir restituer la vérité telle que cela est stipulée dans la Constitution.
Monsieur le gouverneur, à ce niveau, pouvez-vous confirmer avoir reçu les correspondances du gouvernement central dont le ministre de l'Économie a parlé tout à l'heure?
En tout cas, nous sommes en train de recevoir ces affirmations par la presse, comme c'est le cas maintenant avec la radio Okapi. Mais j'ai eu à contacter tous les gouverneurs, parce que j'interviens ici en ma qualité de porte-parole de tous les gouverneurs de la RDC. Nous n'avons pas reçu ce genre d'acte, parce que nous nous interrogeons sur la portée de l'acte. C'est une lettre, c'est un décret pour que l'on annule ces édits qui ne sont pas des actes réglementaires, mais qui sont plutôt des actes législatifs. Donc je serais également heureux de recevoir cette correspondance. Et heureusement que nous avons en face de nous les membres du cabinet du Premier ministre qui devra peut-être nous confirmer si c'est un décret ou une lettre qui a été signée pour reporter les édits. Parce que je sais pertinemment bien que la loi sur la libre administration des provinces, particulièrement à 113, je pense, dit clairement que c'est la Cour constitutionnelle qui connaît de la constitutionnalité des édits. Et que donc, ce serait quand même surprenant que les édits qui ont été votés par les provinces et qui sont des actes législatifs soient annulés à la suite d'un communiqué de presse qui est remis aux maisons de presse. Mais je voudrais quand même avoir la confirmation de la part du cabinet qui est représenté par l'intervenant que vous avez présenté tout à l'heure.
Monsieur le gouverneur, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, dans ses doléances au Premier ministre concernant ces édits, relève par exemple que ces édits font double emploi avec des taxes levées au niveau national. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui. En matière de taxes, il y a trois types de taxes qui peuvent être instituées. Il y a d'abord les taxes qui sont reprises à l'article 202 de la Constitution, c'est-à-dire celles qui relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central. Il s'agit spécialement des impôts sur les revenus, des impôts sur les sociétés et des impôts personnels. Tandis que les impôts qui relèvent de la matière concurrente sont notamment les droits d'accise et de consommation. Alors que les impôts qui sont de la compétence exclusive des provinces sont notamment les impôts et taxes de droits provinciaux, notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur la circulation routière ou la vignette, comme il m'a appelé. Donc si au niveau de la province, on a voté un édit qui concerne les impôts sur les revenus, les impôts sur les sociétés et les impôts personnels, c'est clair que cet édit doit tomber caduc immédiatement. Mais lorsque les provinces ont voté des édits, par exemple sur l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs, en tout cas la Constitution donne à la province cette compétence de le faire. Et donc le débat doit être ouvert plutôt aux impôts qui concernent les matières qui relèvent de la compétence concurrente entre le pouvoir central et les provinces. C'est là où effectivement on dit que la législation nationale prime sur l'édit provincial. Mais là aussi, ça doit poser un débat très sérieux. Parce que le décret qui a été évoqué par le ministre de l'économie, le décret 089 du 2 juillet 1998, est un décret qui donnait à la DGRAD la possibilité de collecter toutes les taxes, y compris même les taxes des provinces. Or, aujourd'hui, la constitution de 2006 ne permet plus à la DGRAD de devoir collecter les impôts de la province. Et le débat, c'est là où il se trouve. Lorsque les provinces réclament à ce que la DGRAD restitue ces taxes, effectivement, et il se pose un problème très sérieux. Parce qu'au niveau de la DGI, qui est la Direction Générale des Impôts, nous avons déjà récupéré au nom de province l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier et l'impôt sur les véhicules automoteurs. Là, ça ne pose pas problème. C'est seulement au niveau de la DGRAD que ça pose problème, parce que lui ne veut pas céder des impôts qui relèvent de la compétence exclusive des provinces.
Merci
voilà le véritable débat, et non pas celui qui est souvent filtré dans la presse pour dire que le gouvernement se sont érigés en rebelle contre le pouvoir central.
Merci, monsieur le gouverneur. Robert Ngambi, est-ce que vous nous entendez mieux?
Je vous suis difficile. Moi, je n'ai pas très bien suivi le gouverneur. Allô?
Oui, le gouverneur pose se poser des questions sur la nature de la correspondance que le gouvernement central leur a adressée. Est-ce cette circulaire à quel titre, à quelle valeur?
Très très compliqué là. Je vais vous-même la voir que si on peut bien me relier, c'est difficile. Je vous suis difficilement très très mal là. Alors, je n'ai pas compris le gouvernement. Oui, allô?
Robert Ngambi, je vais redonner la parole. Je vais vous redonner à la réalisation qui va tenter d'améliorer la qualité de votre ligne. Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, vous êtes enseignant de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. En attendant, peut-être qu'on retrouve Robert Ngambi dont la ligne serait peut-être améliorée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau, professeur?
Bon, je vous remercie, cher ami, de m'avoir de nouveau invité à votre émission. Bon, je crois que sous la nature des actes en question, c'est plutôt étonnant qu'une note circulaire ou un arrêté ministériel puisse annuler un édit provincial. Parce que, comme l'a rappelé si bien M. le gouverneur, un édit, c'est un acte législatif. Et il a très bien catégorisé les différents édits. Les édits qui interviennent dans des matières exclusives du pouvoir central, ils peuvent être déclarés nuls en vertu de l'article 235. In fine de la Constitution. Les édits qui relèvent également de la compétence concurrente peuvent l'être en fonction des intérêts en présence sous l'arbitrage évidemment de la Cour constitutionnelle. En revanche, en ce qui concerne les édits qui interviennent dans les matières exclusives des provinces, je ne vois pas à quel titre le gouvernement, voire même l'Assemblée nationale, le Sénat, peuvent intervenir pour aller prendre une mesure quelconque sur ça. Ça ne relève pas du tout du droit constitutionnel actuel. Je pense qu'il faut rappeler le cadre général dans lequel on se trouve. Parce qu'il y en a encore, s'il y a encore des réflexes du système ancien. La constitution actuelle a instauré, non pas un État fédéral, non pas non plus un État unitaire, mais un régionalisme constitutionnel, c'est une forme d'État intermédiaire entre les deux. Et l'un des principes cardinaux du régionalisme constitutionnel, c'est précisément l'autonomie politique, administrative et financière des entités de base qui sont la province et les entités territoriales de son pays. Bien entendu, tout cela dans le cadre d'un État uni et indivisible.
Alors, pour faire respecter l'autonomie politique administrative des provinces, la Constitution a aménagé la répartition des compétences. Ce sont les articles 202 à 205. Il y a les compétences exclusives au pouvoir central, des compétences concurrentes entre le pouvoir central et les provinces, et des compétences exclusives aux provinces. Lorsque chacun de ces deux gestions du pouvoir intervient dans ces matières, l'autre ne peut pas intervenir. Deuxièmement, pour conforter cette autonomie politique, administrative et financière, les différentes lois qui existent, entre autres la loi du 31 juillet 2008 sur la libre administration des provinces, a instauré un certain nombre de recettes, un certain nombre de ressources qui reviennent aux provinces en application de la Constitution. Si vous lisez les articles 42, 43 et suivants, vous vous rendrez compte qu'en application de l'article 204.16 de la Constitution, on a cité des taxes, des impôts et des droits qui relèvent des provinces et des pouvoirs locaux. Nous sommes amenés à s'y rappeler aussi l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt sur les véhicules automobiles, etc. Alors, cela dit, je ne sais pas dans quelle matière les délits pris dans les provinces sont intervenus. Si c'est dans ces matières-là, je ne vois pas à quel titre on s'arrête. Le Parlement,
voilà.
Le gouvernement,
c'est voilà, nous avons encore des petits problèmes avec la ligne du professeur Ngonda Nkoy. La réalisation va essayer de résoudre ce problème. Monsieur le gouverneur Julien Taloukou, il y a cet auditeur Francis Bissot qui est à Goma où vous vous trouvez, qui dit que ce problème est causé par la mauvaise compréhension de la décentralisation en RDC.
Oui. Bon, je ne sais pas si le gouverneur sont les mauvais élèves pour avoir bien compris la décentralisation. Je pèse bien le mot. Je crois que dans notre pays, nous avons un problème. C'est l'absence de cette culture de lecture. Lorsque la Constitution a été votée en 2006, les hommes politiques ne s'y réfèrent que lorsqu'il y a un problème. Très peu des gens prennent la Constitution comme leur petit déjeuner pour comprendre effectivement ce qu'il y a. Lorsqu'aujourd'hui, la Constitution a réparti les compétences entre pouvoir central et province, et qu'aujourd'hui, les provinces se battent pour essayer un peu de recouvrer certains droits pour qu'ils soient opérationnels sur le terrain, cela ne doit pas être compris comme une rébellion vis-à-vis du pouvoir central. Je crois que nous devons comprendre la décentralisation comme une lutte permanente qui doit permettre aux uns et aux autres de recouvrer leurs droits. Mais comme a dit le professeur, nous avons effectivement évolué dans un environnement de forte centralisation. Si bien que lorsqu'on dit par exemple aux ministres au niveau central qu'ils ont des assignations qu'ils doivent faire respecter pour donner telle fourchette au niveau du budget, eh bien il y en a qui instruisent la DGRAD pour qu'en gonflant les recettes, on puisse apparaître aux yeux du pouvoir central comme si on a bien mobilisé les recettes. Alors qu'on ne peut pas mobiliser les recettes du pouvoir central en se servant des actes générateurs des provinces qui sont déjà prévus dans la Constitution. Donc j'estime que c'est là le débat et nous devons comprendre ensemble que lorsque le travail, lorsque les provinces ont des moyens suffisants, ça va permettre à la République de démarrer correctement. Ce n'est pas que la République démarrera lorsque seulement le pouvoir central va avoir le 100%. Moi, j'ai toujours donné un exemple. Je suis arrivé à la province du Nord Kivu, on avait 1 million de dollars par mois. Lorsque nous nous attendions à 40%, nous avons tout mis en œuvre et on est arrivé à 5 millions de dollars le mois. À ce moment-là, si on donnait les 40% de ces 5 millions, nous allions gagner 3 millions, nous allions gagner 2 millions et le pouvoir central allait gagner 3 millions. Les 3 millions sont supérieurs aux 1 million qu'ils gagnaient avant. Donc je crois qu'on doit analyser profondément cette question pour que le pouvoir central cesse de croire que les revendications que nous faisons tous les jours ont pour objectif de devoir amenuiser, de devoir réduire le pouvoir central, alors que nous avons pour objectif tous de faire en sorte que et l'intérêt du pouvoir central et l'intérêt des provinces concourent à l'intérêt général qui est celui de la satisfaction des besoins de nos populations.
Merci, M. le gouverneur. Robert Ngambi, est-ce que vous nous entendez mieux cette fois-ci?
Allô?
Est-ce que vous nous captez mieux?
Bon, en fait, je comprends 3 sur 5, hein, mais j'ai compris l'essentiel du gouverneur.
Alors,
je suis en ligne.
Allez-y, comment vous réagissez au propos du gouverneur?
Oui, je pense que le gouverneur a utilisé un mot, la lutte permanente, en parlant de la décentralisation. Je ne pense pas que la décentralisation, nous devons la comprendre comme une lutte permanente. La décentralisation devrait être comprise comme une procédé de la gestion de la République et n'est pas une lutte parce qu'il n'y a pas des adversaires sur ce terrain-là. Et deuxième précision que je devrais faire, c'est de dire qu'on doit enlever dans le bouche de tout le monde et dire le Premier ministre a suspendu les édits provinciaux. Il n'était pas question, le Premier ministre a demandé au gouverneur de sursoir l'exécution des édits qui posent problème entre la Fédération des entreprises et le gouvernement provincial, jusqu'à ce qu'il y ait une concertation entre les trois, la tripartite, le gouvernement central, les provinces et la Fédération des entreprises. La Fédération, le gouvernement a été convoqué à Kinshasa pour concertation. Malheureusement, c'est tombé dans une mauvaise période. Le Premier ministre a fait un déplacement pour Corée du Sud, il va revenir et la concertation doit avoir lieu. Le problème est que je suis suivi. Allô?
Vous êtes en ligne, allez-y.
Oui. Le grand problème est que nous devons bien comprendre que la décentralisation, nous étions, comme venait de le dire le gouverneur, un État centralisé. La décentralisation, par principe, c'est un transfert de compétences et de moyens. Qui transfère les compétences? C'est le gouvernement central. En décrétant la décentralisation comme méthode de gestion de la République, ce n'est pas tout simplement du fait que c'est consigné. Elle devrait être suivie par un ensemble de lois que le Parlement national devrait voter pour transférer le droit des provinces aux provinces. Il y a en fait un ensemble de lois qui a été déjà voté, mais la loi, il y a une loi importante à ce qui concerne les taxes et impôts, c'est la loi sur la nomenclature qui est encore au niveau de l'Assemblée nationale en discussion. Dès que cette loi est promulguée, dans les impôts qui seront rétrocédés aux provinces et aux entités, la province a tout le droit de pouvoir prendre des dispositions pour la collecte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand je vois toutes les provinces ont des régies, des recettes, donc ce n'est pas un problème ni de l'interprétation ni d'un conflit, c'est un problème entre les opérateurs économiques qui trouvent qu'il y a des taxes qui ne sont pas sûres aujourd'hui, qui ne sont pas encore déterminés comme revenant aux provinces, mais qui ont été érigés par les édits provinciaux. Et le Premier ministre, comme gouvernement central, la décentralisation ne tue pas l'État, a demandé qu'il y ait une concertation pour trouver une voie de sortie. C'est plus simple.
Alors, est-ce que vous confirmez, Robert Ngambi, l'illégalité de la création des taxes par les provinces?
Mais si une taxe n'est pas reconnue, en fait, jusqu'à aujourd'hui, par une loi de programmation des nomenclatures, et qu'une province prend un édit ou n'importe quel autre texte réglementaire instituant qui n'est pas légal, il faut dire que c'est illégal et les opérateurs économiques sont dans le droit de réagir. Et quand les opérateurs économiques réagissent, le gouvernement, l'État ne doit pas rester bras croisés, il doit aussi agir et voir dans quelle position faut-il sortir. Je voulais bien préciser au gouvernement pour que le gouvernement comprenne que notre État aujourd'hui, malgré toutes les options que nous prenons, il y a d'autres options sur lesquelles les provinces doivent participer. Il y a le problème aujourd'hui de l'amélioration des climats des affaires. Le gouvernement de la République est inscrit dans ce chemin-là. Il y a un problème de la stabilité du cadre macroéconomique. Ce sont deux choses importantes parce que la stabilité macroéconomique ne sera pas tout simplement au gouvernement central, c'est l'ensemble de la République qui en tire profit. L'amélioration des climats des affaires, c'est l'ensemble de la République qui en tire le profit. Également, le principe de dire que trop d'impôts tue l'impôt, c'est un principe connu. Moi, je pense qu'il fallait, il y a des provinces qui ont agi dans la précipitation sans attendre qu'il y ait une sur la nomenclature qui soit promulguée par les deux chambres, promulguées par le président de la République pour enfin se retrouver dans le droit. Et ils se sont beaucoup plus contentés des principes généraux levés par la Constitution et la loi sur la libre administration de France, parce qu'il n'y a pas un problème là-dessus.
Robert Ngambi, prenons cette question de l'auditeur qui vous est adressée.
Oui, Robert Mahomet, de Bukavu, respectez-vous. La décision du Premier ministre de suspendre tous les édits imposant de nouvelles taxes aux opérateurs économiques en province est une bonne chose pour autant qu'elle permette de mettre fin au désordre fiscal. Pendant, est-ce que le gouvernement central est maintenant prêt à rétrocéder aux provinces les 40% du montant des recettes du trésor public qu'elle réalise?
Réaction, Robert Ngambi.
Je venais tout à l'heure de dire que nous devons les lever dans nos bouches de dire le gouvernement central a suspendu les édits. C'est que nous reconnaissons, le gouvernement connaît que ce sont les actes législatifs
était à cela, ce n'est pas au gouvernement de prendre la décision de suspendre. Mais le gouvernement central a saisi le gouverneur pour que pour sursoir l'exécution de ces édits en attendant qu'il y ait une concertation au niveau et le gouvernement central avec les provinces et le gouvernement central, le province ainsi que la Fédération des entreprises congolaises. La concertation avec le gouverneur était même programmée la semaine passée. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu à cause du voyage du Premier ministre. Dès qu'il revient, je crois que la démarche va continuer pour ne pas avoir l'opposition au niveau des provinces entre la fédération et le gouvernement provincial. C'est ça qui a été dit. Mais je ne vais pas, moi, cautionner le concept de dire le gouvernement, le Premier ministre a suspendu les édits. Ça, c'est un concept que je ne mérite pas que ça laisse couler dans les têtes de Congolais.
Robert Ngambi, avant de redonner la parole au professeur Ngondanko, le gouverneur Paluku dit qu'ils attendent encore cette correspondance du gouvernement central. Ils ne l'ont pas encore.
Bon, je pense qu'ils peuvent l'administration peut bien s'informer, peut-être se saisir, s'ils n'ont pas encore cette instruction, saisir, en fait, demander au ministre de l'Intérieur qui a été inscrit à ce sens pour obtenir s'ils ne l'ont pas encore obtenu. Mais je pense que la volonté du gouvernement qui a été exprimée par le Premier ministre, c'était de solliciter du gouverneur de sursoir l'exécution et des différents édits instituant les nouvelles taxes, en attendant qu'il y ait concertation au niveau de la tripartite, comme je viens de le dire.
Professeur Ngondanko, êtes-vous d'avis que les provinces ont agi dans la précipitation, comme le dit Robert Ngambi?
Bon, on parle de précipitation parce que, comme M. Robert l'a dit, il faut attendre la loi sur la nomenclature, des recettes. Bon, je crois que cette fameuse loi sur la nomenclature des recettes, elle est fondée sur l'article 175, alinéa 2 de la Constitution. Que dit cet article? Cet article dit tout simplement qu'une loi va déterminer la nomenclature des autres recettes locales qui reviennent non pas aux provinces, mais aux entités territoriales décentralisées. Parce que dans le contexte de la Constitution, on distingue bien le niveau national, le niveau provincial, du niveau local. Le niveau local commence à partir des entités territoriales décentralisées, à savoir les villes, les territoires, les secteurs et les chefferies. Donc, si on veut attendre cette loi, ce ne sera pas, à mon avis, sous la base de cet article, à moins qu'on en trouve un autre. Deuxièmement, heureusement que l'équivoque vient d'être levé par le conseil de M. le Premier ministre. Il ne s'agit pas de suspendre, je vais vous dire, il s'agit de demander aux différents gouverneurs de s'asseoir à l'exécution des édits qui ont été pris. Alors, je pense que c'est une prière. Une prière peut être entendue, c'est qu'on ne peut pas. Parce que je ne vois pas de sanctions qui peuvent venir lorsqu'un gouverneur n'exauce pas cette prière. Ce qui est à dire, ce qu'il faut dire, c'est que, effectivement, les provinces, dans l'exercice de leurs compétences exclusives, ne doivent pas non plus gêner l'action de l'État central, en sorte par la multiplication des taxes qui peuvent, encore une fois, envenimer le climat des affaires au pays. Alors, si les opérateurs économiques se plaignent qu'il y a risque de double imposition, c'est peut-être que part, il y a un des deux niveaux de pouvoir qui intervient dans un domaine qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, peut-être que hier, certaines des têtes relevaient du pouvoir central, et par une morale interprétation de la Constitution, on ne veut pas comprendre que ces recettes ont déjà été transférées aux provinces, ou alors, ce qui n'est pas impossible, les provinces cherchent à s'accaparer des pouvoirs qui relèvent du pouvoir central. C'est pour cette raison que je vous l'ai dit, n'ayant pas vu ces édits, ne connaissant pas les matières dans lesquelles ces édits sont intervenus, je ne vais pas donner la vie définitive. Tout ce que je sais, c'est que les provinces ont le pouvoir de prendre des édits, de prendre des impositions sur les revenus locatifs, sur l'impôt foncier, sur les véhicules automoteurs et sur les autres recettes qui sont énumérées dans la loi portant principe fondamental relatif à la réglementation des provinces. Donc, je ne sais pas dire si effectivement le jugement du Premier ministre concernant l'illégalité ou non de ces édits peut être définitif. En tout cas, s'il y a difficulté d'interprétation, s'il y a effectivement conflit, ben, c'est bien la Cour constitutionnelle de la Cour suprême actuelle qui fait office de Cour constitutionnelle qui va trancher.
Professeur Ngondankoy, la SEC, dans son communiqué, cite par exemple la taxe sur l'embarquement dans les avions créés au Nord Kivu.
Alors, ça c'est plutôt étonnant. Parce que je ne sais pas si on peut intégrer ça dans le cadre de, d'un impôt sur les revenus locatifs, sur l'impôt foncier ou les véhicules automoteurs. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les taxes sont différentes des impôts. Une taxe a pour spécificité qu'elle doit avoir une contrepartie. C'est-à-dire qu'on prélève une redevance sur un service qui est rendu aux citoyens. Maintenant, si les provinces sont intervenues sur cette matière-là, encore faut-il se demander si, effectivement, ces provinces rendent ces services-là à tous les utilisateurs. Mais, encore une fois, ici, je ne peux pas trancher parce que je n'ai pas encore lu ces avis-là.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous avez suivi Robert Ngambi qui a précisé qu'il ne s'agit pas de suspendre ces ébis, mais plutôt de sursoir. Êtes-vous rassuré?
Oui, là je suis très très apaisé par cette bonne formulation du professeur de notre intervenant, parce que j'étais inquiet lorsque la presse était en train de dire que les ébis sont annulés par une lettre du Premier ministre. Donc je suis apaisé par le fait que l'on dise clairement qu'un édit est un acte législatif. Donc je crois que, comme les intervenants l'ont si bien dit, cette question des taxes aurait dû être résolue bien avant, parce que l'Assemblée nationale et le Sénat auraient dû voter la loi sur la nomenclature des recettes. Mais on est passé par d'autres lois. Nous aimons bien les sports, les activités physiques, nous aimons bien l'environnement, nous aimons bien les autres, mais tout ceci arrive effectivement parce que, à la suite des principes énumérés de la Constitution sociale de la décentralisation, ces principes n'ont pas été suivis immédiatement des lois pour encadrer la décentralisation. C'est ainsi que les uns et les autres ont commencé à interpréter de leur façon. Je veux dire, lorsqu'on fait référence par exemple au décret de 1998, c'est ce décret-là qui donne la nomenclature. Or, dans la configuration actuelle qui est édictée par notre Constitution, ce décret d'il y a 12 ans ne peut plus s'appliquer dans l'environnement constitutionnel actuel. C'est ainsi que les gouvernements provinciaux sont en train de prendre les édits se fondant effectivement sur des principes qui sont déjà édictés ici à l'absence d'une loi. Et la Constitution est claire. Le jour où la loi sur la nomenclature va sortir, eh bien, elle va annuler, si elle est contraire on nos édits, elle va annuler de toutes les édits. Mais nos édits, j'étais à préciser qu'elles n'ont pas créé de nouvelles taxes. Ils se sont servis des taxes qui sont déjà reconnues par les nomenclatures anciennes.
Merci, monsieur le gouverneur. Robert Ngambi, c'est vrai qu'il y aura une concertation avec les gouverneurs très prochainement, mais comment finalement harmoniser cette réglementation des taxes avec les provinces?
Je pense que le professeur, je n'ai pas retenu son nom.
Ngondankoy.
Ngondankoy a été très clair. Vous avez donné l'exemple du Nord Kivu qui est passant, qui n'est pas reconnu dans parmi en fait le taxe énuméré dans la Constitution. Le gouverneur Paluku veut dire que il se sert de principe pour pouvoir imposer, en fait, faire voter des édits au niveau de l'Assemblée. Je pense que ce n'est pas ça la démarche de notre décentralisation. Nous devons rester constants et rationnels et ne pas plonger dans la précipitation. Nous ne gagnons rien en détruisant notre propre Congo. Le professeur Ngondankoy a très bien souligné que les provinces doivent aider. Nous avons une vision de la République aujourd'hui, c'est de maintenir le cadre macroéconomique afin de respecter le programme que nous avions signé avec le bailleur, le Fonds monétaire international. C'est un programme qui s'étend jusqu'en 2013. Nous avons l'obligation aujourd'hui de pouvoir favoriser le climat des affaires. Donc, il est quand même important qu'il y ait, même si ce n'est pas établi, les gens, qu'il y ait dans ce domaine-là, en attendant que la loi sur la nomenclature des recettes soit promulguée. Mais si on veut agir, qu'il y ait une concertation entre les instances établies par la Constitution. Mais agir avec, parce qu'on a dit, l'autonomie, la libre administration des provinces,
On en fait déjà comme l'État n'existe pas. Je pense que c'est une précipitation qui ne profite pas à la République et qui ne profite pas au climat des affaires. La conséquence, vous avez, c'est le milieu que nous voulons que ça soit attrayant, le milieu des affaires, qui a été le premier milieu à réagir par rapport à tout ce que l'appelle comme, tout ce que l'appelle comme tracasserie. Et également, une diarrhée des taxes, ce n'est pas normal par rapport à la vision qu'essaie de donner la République. Pourquoi ne pas attendre? Ou peut-être que faire que le Parlement accélère le vote de la loi sur la nomenclature pour que nous soyons tous fixés. Ce n'est pas parce que le gouvernement, le Parlement a traîné que nous devons nous prendre donnant un pouvoir qu'on n'en a pas encore. C'est ça en fait ce qui est très important que le gouvernement comprenne. Je crois que à ce qui concerne le gouvernement, il n'y a pas une vision de pouvoir obstruer les provinces dans leur pouvoir. La constitution est claire, l'article 220 est clair, le gouvernement respecte, mais il y a également qu'on sauvegarde le principe fondamental, en fait, les piliers qui gèrent l'État actuellement, c'est ce qui est plus important.
Alors, ne pensez-vous pas qu'il faudrait également améliorer la communication, hein? On a toujours l'impression qu'il y a ce problème patent de communication entre le gouvernement central et les provinces.
Bon, en fait, ce que vous comprenez, c'est qu'il y a eu un mauvais départ au début. Le gouverneur a été dans une vision de croire que... qui n'avait rien à voir avec le gouvernement, ils avaient tout simplement affaire avec le président de la République. C'est cette vision qui anime encore beaucoup de gouverneurs qui ne comprennent pas qu'au-delà d'être le représentant du chef de l'État en province, ils sont également le représentant du gouvernement. Ils ont la gestion quotidienne de la République et au niveau national, c'est le gouvernement qui a la gestion quotidienne des affaires de l'État. À ce sens, il devrait y avoir une communication, comme vous l'avez dit, c'est une bonne chose, c'est une bonne proposition. Et je crois que le gouverneur Paluku, qui est le porte-parole de tous les gouverneurs, prendra ça une bonne note pour enfin qu'on établisse une communication entre les instances établies par notre constitution. Parce qu'il n'y a pas trois républiques, il n'y a pas deux républiques, il n'y a qu'une seule république, la République démocratique du Congo, mais qui a opté la décentralisation comme procédé de gestion de son État. C'est plus simple, élémentaire.
Professeur Ngondanko, et en attendant les autres lois qui doivent accompagner la décentralisation, comment harmoniser finalement la réglementation des taxes entre le gouvernement central et les provinces?
Bon, d'abord, je dois dire que quand on dit la loi sur la nomenclature des recettes, une nomenclature, c'est une liste. C'est une loi qui va énumérer un certain nombre de recettes qui relèvent du pouvoir central ou du pouvoir provincial. Mais alors, si cette liste-là se trouve quelque part dans une loi, pourquoi ne pas l'utiliser? Je vais citer ici la loi pour trois principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, qui énumère un certain nombre d'impôts, de taxes et de droits qui relèvent du pouvoir provincial. C'est déjà une loi de mise en œuvre de cette nomenclature, il ne faut pas en chercher une autre. Et je venais de dire tout à l'heure que l'article 155, alinéa 2, vise les autres recettes locales, c'est-à-dire les recettes qui sont énumérées, ni dans la Constitution elle-même, ni dans une autre loi particulière. C'est cette loi-là qu'on attend. Je ne pense pas que ça peut être un préalable pour que les provinces puissent exercer des compétences qui sont les leurs. C'est-à-dire, je venais de le dire, il y a peut-être un problème de communication entre les deux niveaux du pouvoir. Et je ne vois pas comment le problème peut être résolu autrement que par la confédération. Je ne vois pas, par exemple, que le gouvernement central puisse prendre des mesures coercitives en cette matière-là. Je ne vois pas la base légale et constitutionnelle de là. Ce qu'il y a à signer, ce qu'il y a à demander, c'est cette concertation qui a été projetée. Et à défaut d'entente, il faut solliciter la vitesse de la Cour constitutionnelle.
Monsieur le gouverneur Paluku, que faut-il pour vous pour améliorer, pour harmoniser la réglementation des taxes avec le gouvernement central?
Oui, moi je crois que le cadre est déjà prévu par la Constitution. Il y a une loi du 17 octobre 2008 sur la conférence de gouverneurs qui avait institué ce cadre-là pour dire que la conférence de gouverneurs est l'instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et le gouverneur de province. Donc j'estime que des questions comme celle-là devaient être posées. Et je me rappelle lorsque nous avons tenu la première conférence à Kisangani, nous avions formulé des recommandations pour demander à ce que des concertations soient régulières entre les provinces et le pouvoir central autour des questions comme celle-ci. Lorsque vous lisez cette loi sur la conférence de gouverneurs, on dit que cette conférence a pour mission d'émettre des avis et de formuler des suggestions sur la politique à mener, sur la législation à édicter par la République. Je crois que la réponse se trouve dans cette disposition de cette loi-là. Donc si la conférence est convoquée, nous allons passer en revue toutes ces questions et peut-être que nous allons d'ailleurs donner un avis parce que si j'ai bonne mémoire, cette loi sur la libre administration des provinces dit d'ailleurs qu'avant que les règles de perception des taxes spécifiques des provinces ne soient édictées, il faut un avis préalable de la conférence des gouverneurs. Donc moi je pense que c'est en fait cette difficulté de communication qui a fait que nous en arrivions à ce stade. Et comme l'a si bien rappelé le conseiller, il n'y a pas deux républiques, il n'y a pas trois républiques, il y a une seule république. Mais ce n'est pas au nom de la seule république que les droits des uns doivent être lésés. Nous devons tous comprendre que, et le pouvoir central, et l'échelon provincial, nous devons recouvrir un certain nombre de droits pour que la République puisse marcher correctement.
Merci.
Donc, j'en appelle en fait à ce que la concertation ait lieu le plus urgentement possible, et le cadre légal connu, c'est la conférence des gouverneurs. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure.
Robert Ngambi, brièvement, il y a des auditeurs qui posent également leurs questions. Danga Nabiangbale, Bissiro en province orientale, le gouvernement central doit éviter de donner l'impression aux provinces qu'il est contre la décentralisation. L'amélioration du climat des affaires est aussi l'affaire des gouvernements provinciaux qui, jusqu'ici, ne sont pas encore associés à ce processus. Pepe Lissungi Botomoito de Kisangani également. Cette décision du gouvernement central n'a pas sa raison d'être car elle cause de problèmes très sérieux sur le plan du développement de plusieurs provinces, surtout que la rétrocession des 40% au niveau des provinces n'est pas respectée. Brève réaction, Robert Ngambi.
Bien, je commencerai par celui qui pose le problème de la rétrocession de 40%. Je crois que le Premier ministre, à travers même le gouvernement, tous les gouverneurs sont d'accord par rapport à la réalité économique du Congo aujourd'hui, et surtout dans la majorité des provinces. Et le gouvernement, et en concertation avec le gouverneur, ont opté pour la solidarité nationale, parce que s'il faut l'application stricte de 40% est telle que définie par la Constitution, ce qui est légal. Mais la réalité du Congo a fait qu'on opte pour une politique de la solidarité nationale. Le gouverneur Paluku connaît de quoi il s'agit, donc peut-être que dans un cadre approprié, on peut lui donner de réponses. Deuxième, c'est que le gouvernement central n'est pas contre la décentralisation, parce qu'il y a même un ministère chargé de la décentralisation. Le problème est que l'ensemble de lois que nous avions eues, c'était l'ensemble de lois qui étaient sous la gestion d'un gouvernement, d'ailleurs avec une centralisation à outrance. Il faut maintenant, dans le cadre de la nouvelle option que la République s'est donnée, la décentralisation, un processus de transfert dans chaque secteur.
Merci.
Et cela devait être accompagné par de lois de la République. Donc, c'est au niveau de l'adoption de lois. Par contre, quand on parle des taxes qui sont énumérées dans la loi portant libre administration des provinces, je crois que même dans la perception de ces taxes-là, il n'y a jamais eu conflit entre les opérateurs économiques et le gouverneur des provinces pour la perception de ces taxes. Mais il semble qu'il y a des taxes qu'on a ajoutées,
Merci.
Et là, des taxes qui sont reconnues dans la loi portant libre administration des provinces.
Merci Robert Ngambi. Monsieur le gouverneur Paluku, l'émission va toucher à sa fin. Juste un mot pour conclure.
Oui, pour conclure, je voudrais simplement dire que il n'y a pas de conflit apparent entre pouvoir central et province. Nous sommes une même république, nous respectons les instructions qui sont édictées par le pouvoir central, mais en même temps, nous devons respecter toutes les dispositions constitutionnelles et comprendre que...
Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Professeur Ngondanko, juste un mot en guise de conclusion.
Il y a du travail à faire. Il faut que l'on comprenne la forme dans laquelle on se trouve et que les autorités puissent se concentrer entre eux dans l'application de la Constitution. Et on évitera.
Merci, professeur. Merci, professeur. Cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir été des millions à nous suivre grâce à notre site internet radiocapi.net. La rediffusion de cette émission, c'est demain à 4h15, heure de Kinshasa. Au revoir. Oh, Katy, oh, Katy.